L'œil du monde, géopolitique et actualité internationale. Un samedi par mois à 17h30 sur Radio Campus Paris.
Bonsoir tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Notre thème d'aujourd'hui est éminemment géopolitique puisqu'il associe un espace géographique sans véritable statut et des enjeux nationaux et internationaux. On part au Sahara occidental. Ce territoire continue d'être le théâtre de convoitises à l'échelle régionale entre le Maroc et le Front Polisario. Et bien sûr, dans une première partie d'émission, comme d'habitude, je vais vous présenter la carte d'identité de ce territoire, puis un peu d'histoire pour comprendre les enjeux actuels. Par la suite, je recevrai Khadija Mohsen-Sinan, politologue et spécialiste du Maghreb. On décryptera les dernières actualités. Nous retrouverons bien sûr Florent pour son pas de côté. Il est 17h32 ici à Paris, même heure au Sahara occidental, et nous sommes en direct jusqu'à 18h sur Radio Campus Paris. Vous écoutez À l'oreille du monde.
À l'oreille du monde sur Radio Campus Paris.
C'est parti pour la carte d'identité de ce territoire et non pays. En effet, le Sahara occidental détient le statut juridique de territoire non autonome selon l'ONU. C'est-à-dire, d'après la Charte des Nations Unies, un territoire dont les populations ne s'administrent pas elles-mêmes. C'est le cas ici parce que le Sahara occidental est contrôlé par le Maroc et le Front Polisario. Je vous en dis plus après. Ce territoire est situé au nord-ouest de l'Afrique et fait partie du Maghreb. Le Sahara occidental est bordé par le Maroc au nord, l'Algérie au nord-est et par la Mauritanie à l'est et au sud. Sa superficie est de 266 000 km², c'est-à-dire un peu plus que la superficie du Royaume-Uni. Il bénéficie de 1100 km de côte sur l'océan Atlantique, ce qui lui assure des ressources halieutiques considérables. C'est une des raisons pour lesquelles ce territoire est convoité. Une autre serait que le Sahara occidental dispose des plus grandes réserves de phosphate au monde connues à ce jour. Mais par qui est convoité ce territoire? Par ses voisins, bien sûr. Le Maroc contrôle et administre aujourd'hui 80% du Sahara occidental et le Front Polisario contrôle les 20% restants. Le Front Polisario, c'est un mouvement indépendantiste qui souhaite libérer le Sahara occidental de la domination marocaine et qui a proclamé la République arabe démocratique sahraoui sur ses 20% de terre. Deux drapeaux différents coexistent donc. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ONU ne reconnaît ni cette nouvelle république, ni la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Les Nations Unies appellent, comme toujours, à l'autodétermination des peuples. Pour éviter les incursions de ces indépendantistes, le Maroc a construit un mur de sable de 2700 km, c'est la frontière entre les deux occupants. Ce mur, appelé mur marocain ou mur de la honte, est constitué de remblais sablonneux, de fossés antichars, de batteries d'artillerie et de barbelés, le tout cerné par des centaines de milliers de mines antipersonnelles. Les habitants du Sahara occidental sont appelés les Sahraouis. Florent reviendra sur cette dénomination dans son pas de côté tout à l'heure. On compte environ 500 000 habitants dans tout le territoire qui se répartissent en différentes ethnies, dont les principales sont les Arabes Makhiles et les Berbères Tekna. La langue principale est l'arabe Hassaniya.
À l'oreille du monde, sur Radio Campus Paris.
Voilà pour la carte d'identité. Passons maintenant à une petite partie d'histoire, dans le but de comprendre le chemin qui nous amène à en arriver à cette répartition territoriale aujourd'hui. On commence en 1884. Le Sahara occidental devient une colonie espagnole. Cette occupation ne plaît évidemment pas au Maroc. Celui-ci était une colonie française et obtient son indépendance en 1956. À partir de ce moment-là, le Maroc considère que le Sahara occidental fait partie de son territoire. Une petite dizaine d'années plus tard, en 1965, dans le contexte international de décolonisation, l'Assemblée générale de l'ONU demande à l'Espagne de se retirer du Sahara, ce qu'elle ne fera que 10 ans plus tard. Ce qui nous amène en 1974, quand l'Espagne annonce son intention de se retirer et propose d'organiser un référendum. Le Maroc et la Mauritanie contestent cette initiative, revendiquent le Sahara occidental comme leur territoire. Mais le 14 novembre 1975, les accords de Madrid sont signés. L'Espagne accepte de se retirer et le Sahara occidental est divisé entre le Maroc et la Mauritanie. Le 26 février 1976, l'Espagne quitte officiellement ce territoire. immédiatement le Front Polisario, un mouvement indépendantiste créé en 1973 et soutenu par l'Algérie, déclare l'indépendance du Sahara occidental et proclame la création de la République arabe sahraoui démocratique, ce qui provoque une guerre avec le Maroc et la Mauritanie. La Mauritanie se retire de la guerre en 1979, mais c'est seulement en 1991 qu'un cessez-le-feu est signé. Depuis, le Maroc contrôle 80% du territoire et le Front Polisario les 20% restants. C'est la situation actuelle. À partir de ce moment, ce conflit armé s'est transformé en conflit diplomatique. De nombreux pays se sont manifestés pour soutenir soit l'indépendance du territoire ou pour soutenir la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et la France a pris position cette année. On en parle tout de suite avec mon invité, Khadija Mohsen Finan.
À l'oreille du monde, sur Radio Campus Paris.
Khadija Mohsen Finan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, spécialiste du Maghreb, docteur en sciences politiques et diplômée d'histoire. Vous avez été enseignante-chercheuse à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes encore rattachée à leur laboratoire, le laboratoire CIRIS. Vous êtes aussi membre de la rédaction de la revue en ligne Orient 21. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir dans l'émission À l'oreille du monde. Pendant cette interview, on va tenter de décrypter l'actualité du Sahara occidental et de comprendre les enjeux de ce litige territorial. On commence donc par l'actualité la plus récente. Cet été, Emmanuel Macron adresse un message à Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est ce que nous apprenait l'agence de presse marocaine MAP. Et dans ce message, il annonce au roi qu'il considère que l'avenir du Sahara occidental s'inscrit dans le cadre de la souveraineté marocaine. Ce sont ses termes. Fin octobre, Emmanuel Macron est reçu pour une visite d'État au Maroc avec une délégation de 122 personnes. Ici, le président français réaffirme sa position sur la marocanité du Sahara occidental. Alors, je vous pose la question, Khadija Mohsen Finan, pourquoi le président Macron a-t-il choisi ce timing? Qu'est-ce que ça apporte à la France que ce soit maintenant?
Alors, ce timing, à mon avis, il a été choisi parce que c'est le dernier mandat d'Emmanuel Macron, que ses rapports avec les autres pays du Maghreb et en particulier l'Algérie ne sont pas très bons. Il avait escompté un nouveau cap dans la politique mémorielle avec l'Algérie qui n'est pas venu. C'est assez tendu avec la Tunisie et avec la Libye. Il est très difficile aujourd'hui que la France ait des relations. Donc, il voulait rétablir de bonnes relations avec le Maroc qui est traditionnellement, malgré les crises, un partenaire sûr pour le Maroc. Mais ce timing obéit aussi à d'autres choses. C'est que le Maroc a aujourd'hui un partenariat stratégique avec Israël qui est important dans la relation entre le Maroc et la France. Et le Maroc a beaucoup progressé au niveau de son influence en Afrique de l'Ouest et il a de bonnes relations avec les nouveaux gouvernements qui se sont installés suite à des coups d'État au Sahel, région dont la France a été priée de quitter. Donc, il y a des avantages à la fois stratégiques, économiques, commerciaux à rétablir cette relation avec le Maroc.
Et après cette annonce, l'Algérie a immédiatement décidé de rappeler son ambassadeur en France. Donc on sent les relations entre la France et l'Algérie vont maintenant être tendues si elles ne l'étaient pas déjà, vous l'avez dit. Et selon vous, pourquoi la France d'Emmanuel Macron du moins, a-t-elle choisi de jouer la carte du Maroc et de renoncer ainsi à développer ses relations avec l'Algérie?
Parce que je pense qu'elle a plus à gagner. En effet, ça a dû être estimé de cette manière à avoir des bonnes relations avec le Maroc. Le Maroc contrôle les flux d'immigration, les flux d'immigrés qui viennent d'Afrique subsaharienne en partance pour l'Europe. Le Maroc a toujours été un allié sûr pour la France en matière sur le plan stratégique et au niveau de son influence, je l'ai dit, sur l'Afrique. Et les choses sont beaucoup moins tendues puisqu'il n'y a pas ce passif qui est très lourd comme celui de la guerre d'Algérie et cette colonisation qui a marqué au fer blanc les relations entre l'Algérie et le Maroc. Donc les relations entre la France et le Maroc ont souvent été très détendues.
On poursuit dans un instant après une pause musicale avec Aziza Brahim. La chanteuse est née en 1976 dans l'un des camps de réfugiés sahraouis à la frontière algérienne où sa mère s'était réfugiée suite à l'invasion marocaine. Le titre de ce morceau est en espagnol « Invasores », il désigne les envahisseurs, mais elle chante en arabe « Hassania ». Et ses albums, sans surprise, évoquent l'exil, les luttes et le droit à la liberté.
Paris.
Faisons un petit retour en arrière maintenant, parce que la France n'est pas la première à officialiser cette reconnaissance. En 2020, Donald Trump a reconnu la souveraineté du Maroc sur ses « provinces du Sud », pour reprendre le terme employé par Mohamed VI. Joe Biden, arrivé après au pouvoir, a confirmé cette décision. Et c'est ensuite Israël qui, en juillet 2023, a apporté son soutien au Maroc. Alors, est-ce que donc vous êtes en mesure de nous confirmer que Donald Trump a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en échange de la reconnaissance par le Maroc de l'État d'Israël ? Et donc, est-ce que c'est comme la France pour qu'il y ait de bonnes relations entre les États-Unis, Israël et l'Afrique ? Est-ce que c'est la même chose que la France ?
Alors, pour les États-Unis, c'est différent. Pour les États-Unis, ça s'inscrit dans une politique de Donald Trump ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Et ces accords d'Abraham, qui ont été gérés d'ailleurs par son gendre, Kushner, ont consisté à normaliser les relations ou à conduire certains pays du monde arabe et idéalement tous à reconnaître l'État d'Israël et à normaliser ses relations avec cet État d'Israël. Donc effectivement, durant l'année 2020, il y a plusieurs pays du monde arabe et non des moindres qui ont reconnu. Il y a les Émirats arabes unis, il y a le Soudan, il y a le Bahreïn qui ont normalisé leurs relations avec Israël et il y a le Maroc. Donc même s'il a été battu aux élections, Donald Trump a tenu à affirmer, à expliciter le fait que le Maroc avait adhéré aux accords d'Abraham et avait reconnu des relations ou avait renoué avec Israël parce qu'ils avaient déjà autrefois, ils avaient eu des relations beaucoup plus timorées avec l'État d'Israël en contrepartie de la reconnaissance de ce qu'ils appellent eux la marocanité du Sahara occidental par les États-Unis. Alors Joe Biden n'est pas revenu sur cette décision, même s'il n'est pas allé plus loin et n'a pas ouvert un consulat des États-Unis dans le Sahara occidental, puisque, rappelons-le, aux yeux des Nations Unies, le Sahara occidental reste un territoire non autonome, c'est-à-dire dont la décolonisation n'a pas été achevée. Depuis le départ des Espagnols en 1976, l'Espagne a colonisé ce territoire de 1864, de 1884, pardon, à 1976.
Et en ce moment, en tout cas, les choses ne vont pas changer pour les États-Unis, puisque Trump vient d'être réélu, le point de vue ne va pas bouger. Mais il y a aussi une autre actualité, donc la guerre menée par Israël contre le Hamas et le Hezbollah. Et est-ce que ces événements peuvent avoir un impact sur la reconnaissance croisée du Maroc, qui est un pays maghrébin?
Alors oui, il y a déjà eu des impacts, c'est-à-dire que durant l'année écoulée, il y a eu plusieurs manifestations, des manifestations très importantes au Maroc qui demandent au pouvoir marocain de rompre ses relations avec Israël, ce qui ne s'est pas produit. Et lors de la visite d'Emmanuel Macron au Maroc après son discours au Parlement marocain, un parti islamiste, le Parti de la Justice et du Développement, qui avait adhéré au gouvernement, qui dirigeait le gouvernement jusqu'à une date assez récente, a demandé à Emmanuel Macron de retirer ses propos sur la nécessité pour Israël de se défendre et de réviser ses propos compte tenu des 24 ou 25 000 morts du côté palestinien et de ce qui se produit encore en Cisjordanie et à Gaza, et compte tenu du fait que Israël est un pays qui colonise, un pays qui colonise des territoires qui ont été jugés palestiniens en 1967 par les Nations Unies.
Si on avance dans le temps, 2 ans après la reconnaissance de la marocanité par les USA, c'est l'Allemagne, les Pays-Bas et puis l'Espagne, d'habitude très proche de l'Algérie, qui ont annoncé soutenir le plan d'autonomie proposé par le Maroc. Pourquoi ce revirement? Qu'est-ce qui fait que plusieurs pays ont décidé de soutenir ce plan?
Alors effectivement, il y a Berlin, il y a Madrid qui ont emboîté le pas aux États-Unis avant la France. Ce revirement, il est peut-être dû au fait que le conflit a trop duré, qu'on ne voit pas de solution qui se profile dans un avenir proche, qu'il y a des intérêts certains à avoir de bonnes relations avec le Maroc, Mais ça s'explique aussi par la faiblesse des Nations Unies. Les Nations Unies n'ont jamais été aussi faibles. Oui, mais là, on peut revenir sur cette faiblesse en disant que les nations, le droit international et les Nations Unies sont par définition faibles, puisque c'est la volonté souveraine des États qui finit par dominer. L'ONU, c'est la volonté des États qui composent cette organisation. Il y a aussi un autre facteur qui a certainement joué, c'est la perte d'influence de l'Algérie au niveau régional et au niveau international.
Et vous venez d'en parler justement, il y a un autre acteur hormis les États, c'est donc l'ONU. Et en faisant des recherches pour préparer cette émission, j'ai lu un article du Monde qui a pour titre « 5 décennies d'impuissance de l'ONU ». Les Nations Unies se réfèrent au droit international, vous l'avez dit, et appellent à l'autodétermination des peuples et réclament depuis toujours, sans succès, l'organisation d'un référendum. Est-ce que vous partagez cette idée d'impuissance des Nations Unies et concrètement qu'a essayé de mettre en place l'ONU toutes ces années ?
Alors, durant toutes ces années, les Nations Unies ont, depuis 1991, date à laquelle la résolution de ce conflit leur a été confiée, les Nations Unies ont essayé d'appliquer un plan type pour décoloniser cette région, c'est-à-dire organiser un référendum d'autodétermination et essayer d'appliquer un plan type avec une autonomie durant les 5 premières années, suivie peut-être d'un second référendum pour demander à la population si elle veut au peuple du Sahara, comme c'est dit dans les documents onusiens, si ce peuple veut être rattaché au Maroc ou s'il veut être indépendant. Mais ça n'a pas du tout fonctionné. Il y a eu de la part des deux belligérants le Front Polisario qui représente les Sahraouis et qui est reconnu par l'ONU comme seul représentant légitime, et le Maroc. Il y a eu une manipulation des listes électorales, et puis avec le temps, il y a eu beaucoup de mélange de populations et il est très difficile aujourd'hui de dire qui est Sahraoui, celui qui a des ancêtres sahraouis ou celui qui y habite depuis 30 ou 40 ans. Donc on ne sait plus exactement. Donc l'ONU, effectivement, sous la pression des deux grands États du Maghreb qui ont de très mauvaises relations entre l'Algérie et le Maroc, n'a jamais pu avancer et trouver un dénouement à ce conflit. Donc il y a eu à la fois impuissance des États, des Nations Unies, oui, c'est vrai, et compte tenu de cette impuissance, les deux belligérants ont cherché à contourner les Nations Unies en installant pour le Maroc un soft power, c'est-à-dire amener les pays à reconnaître sa souveraineté sur le Sahara occidental en dehors des Nations Unies, et côté Front Polisario a porté devant une instance supranationale ou internationale, la Cour de justice de l'Union européenne, l'exploitation et la commercialisation des ressources du Sahara occidental par le Maroc. Donc on est dans le soft power et le contournement des Nations Unies à partir du constat de la faiblesse des Nations Unies.
Alors donc on en est là aujourd'hui, tout ça c'est ce qui s'est passé. Et pour finir, j'aimerais vous demander, que peut-il se passer maintenant après ces reconnaissances ? Est-ce que le Maroc va essayer de tenter de mettre en place une nouvelle organisation au Sahara occidental par exemple ?
Le Maroc est présent au Sahara occidental depuis 1976. Il administre la population, il exploite ce territoire, 80% du Sahara occidental, il exploite les ressources et il les vend. Je pense qu'il ne va pas y avoir de retour en arrière. Ce que veut le Maroc, c'est faire admettre par la communauté internationale cet état de fait, ce fait accompli. Et je pense qu'il y arrivera à partir du moment où il y a plusieurs pays qui se sont rangés derrière cette marocanité du Sahara occidental, et compte tenu du fait que en dehors de l'Algérie, il y a très peu de pays, d'États qui soutiennent aujourd'hui le Front Polisario, et que en réalité Personne ne veut d'un État sahraoui dans la région aujourd'hui au sud du Maroc.
Très bien. Eh ben, on arrive au terme de cet échange. Merci à vous, Khadija Mohsen Finan.
Je vous en prie.
De nous avoir permis d'y voir plus clair sur ce sujet complexe. Je rappelle que vous êtes politologue, spécialiste du Maghreb et du monde arabe. Vous avez été enseignante-chercheuse à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes toujours attachée à leur laboratoire, le laboratoire CIRIS. Et on peut vous lire sur le site du journal en ligne Orient 21. Merci d'avoir été présente.
Au revoir, merci.
Et puis nous, on finit cette émission par la chronique habituelle de Florent. Ils sont pas de côté linguistique aujourd'hui.
En effet, un détour aujourd'hui par la linguistique et plus précisément l'onomastique, c'est-à-dire l'étude des noms de lieux, de peuples ou de personnes. Comment appelle-t-on les populations qui vivent au Sahara occidental? Les Sahraouis, tu l'as dit tout à l'heure, Léo, dans la carte d'identité. À l'oreille, il paraît logique, bien sûr, que les Sahraouis soient les habitants du Sahara. Du Sahara, d'accord, mais pourquoi ce terme désignerait-il les personnes qui vivent spécifiquement au Sahara occidental, voire une partie d'entre eux seulement, et pas dans le reste de cet immense territoire? La raison, vous me voyez venir, n'est pas à chercher du côté de la linguistique. Pour la petite histoire et la grande, le nom Sahraoui est déjà utilisé par les Romains et les Phéniciens au début de notre ère. C'est un emprunt du latin à l'arabe Sahraoui, qui signifie « habitant du désert », dérivé du mot arabe Sahra, le désert. Les Romains et les Phéniciens utilisent Sahraoui pour nommer les tribus avec qui ils établissent le commerce de l'or, de l'argent et de l'ivoire notamment. Et vous le devinez, la zone géographique que ces Sahraouis d'alors traversent avec leurs caravanes de dromadaires chargées de marchandises précieuses, cette zone est bien plus vaste que le Sahara occidental actuel. Elle s'étend jusqu'au fleuve Niger, au lac Tchad, au Nigeria actuel et même jusqu'à l'Égypte et la Corne d'Afrique. Si cette appellation Sahraoui ne trouve pas sa justification dans la linguistique, que diriez-vous de chercher du côté de la politique et de l'histoire, bref, de la géopolitique? Ce qui caractérise le Sahara occidental d'aujourd'hui, c'est une diversité d'ethnies et d'origines, de langues, de nationalités, de modes de vie, nomades ou sédentaires, etc. C'est un ensemble de populations bien plus qu'un peuple unifié. Alors pour défendre cette communauté et construire une identité, le terme Sahraoui a été d'une grande utilité. C'est le nom qui a permis d'exister, de peser dans les opinions internationales et de revendiquer le droit à l'autodétermination. Un autre vocable propre au Sahara occidental est tout aussi intéressant, le Front Polisario. Ce terme identifie un ensemble de groupes humains qui ont en commun la résistance, d'abord face à la puissance coloniale, l'Espagne, puis face aux visées impérialistes du Maroc et pendant un temps de la Mauritanie. Le Front Polisario, c'est le Frente Popular de Liberación de Saguía el Amra y Río de Oro, c'est-à-dire le Front de Libération, le Front pour la Libération de Saguía el Amra et du Río de Oro. Un acronyme issu de la contraction des noms espagnols des deux régions constitutives de l'ex-Sahara espagnol, lui aussi. Ou comment revendiquer l'indépendance dans la langue de l'ancienne puissance coloniale. À travers ces deux exemples, on le voit, linguistique et géopolitique font bon ménage, car donner un nom, utiliser un nom, c'est faire sens, ce n'est jamais anodin.
À méditer. Merci Florent. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver en podcast sur le site internet de Radio Campus Paris et sur les applications de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous le 21 décembre pour le prochain numéro. À plus.
Géopolitique, un samedi par mois à 17h30 sur Radio Campus Paris.